Dans l'immensité du ciel azur, là où les nuages dessinent des rêves éphémères, Mégane parcourt le monde en tant qu'hôtesse de l'air pour Air France. Elle traverse les fuseaux horaires, les continents et les cultures, vivant au rythme intense des vols et des escales. À chaque destination, elle découvre de nouveaux horizons, collectionne des souvenirs et des instants de vie qui oscillent entre émerveillement et désillusion.
Ses lieux préférés, ces petits coins de paradis trouvés aux quatre coins du globe, contrastent parfois avec les défis et les inconvénients de ce métier éprouvant. Mégane nous ouvre les portes de son univers aérien, partageant ses joies et ses peines, ses coups de cœur et ses déceptions. Elle nous emmène dans les coulisses de la vie d'une hôtesse de l'air, dévoilant les secrets et les anecdotes de ce monde qu'elle arpente avec passion.
Dès mon premier vol, j'ai dit, j'ai trouvé ce que je voulais faire. J'ai trouvé ma vocation, c'est ça que je veux faire en fait. Je m'appelle Mégane Lenorès et je suis hôtesse de l'air sur long courrier. Je vole pour Air France. Je cherchais du travail et j'ai mon oncle qui est lui aussi chez Air France qui m'a dit que Air France cherchait en alternance pour faire agent d'escale. Donc c'est tous ceux qui s'occupent de l'embarquement, l'enregistrement, etc. Et je lui ai dit, vas-y, de toute façon, il me faut du travail. Donc voilà, donc je suis partie sur Paris. J'ai fait un an et demi en alternance au sol et en fait, j'ai adoré le monde de l'aéroport. J'ai toujours aimé les langues, donc de pouvoir parler anglais tous les jours. J'étais là, je me suis dit, c'est trop bien là-bas. Et sauf que Air France n'embauchait pas. Donc du coup, j'ai dit, je vais continuer dans l'aéroport. Et en fait, j'avais des amis qui me disaient de passer hôtesse de l'air, parce que j'avais le profil et tout. Ils disaient, moi, ça me va bien, là, ce rythme à l'aéroport, moi, j'aime bien. Et les circonstances ont fait que, je m'étais dit pourquoi pas essayer de faire financer mon diplôme d'hôtesse de l'air. Et à ce moment-là, en fait, Air France a sorti une autre annonce où ils recrutaient en alternance, mais cette fois-ci en ce qu'on appelle PNC, donc personnel navigant commercial, donc hôtesse de l'air. J'ai dit, c'est un signe, comme on dit. Et donc, j'ai foncé, j'ai été prise et ça fait, ça va faire 6 ans maintenant. J'ai vu pour l'instant une soixantaine de pays. Il y a plein de critères qui rentrent en compte, mais en principe, on reste minimum 24 heures sur place, quoi qu'il en soit. Ça dépend des escales. Il y a des fois où on se dit chouette, c'est 24 heures. Et en fait, entre le temps de trajet de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, tarif de vol, clairement, t'es KO. Donc, tu vas essayer de dormir ou de tenir. Mais après, à force d'y retourner aussi, on a nos habitudes. Donc, du coup, on va optimiser, dire tiens, je suis à New York, j'ai besoin d'aller à telle boutique. Et voilà, se dire, j'ai des courses à faire à tel magasin, à tel endroit. Donc après, on optimise, quoi. En avion, j'ai eu quoi ? J'ai eu de la grêle, j'ai eu la foudre qui a traversé la carlingue. Donc ça, c'est vraiment surprenant parce que ça fait, en fait, il y a un gros paf, c'est un gros boom, en fait, qu'on entend. Et on voit un peu l'électricité au bout des ailes. Enfin, c'est vraiment, c'est impressionnant sur l'instant. Et aussi, ce qui est incroyable, c'est quand vous passez des fois l'été en Afrique, c'est la saison des pluies. Donc du coup, en fait, désert, vous pouvez voir vraiment les masses nuageuses avec en fait les gros orages que vous voyez au loin. Vous voyez tous les éclairs qui sont à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment magnifique à voir. Alors, j'ai eu la chance de voir des aurores boréales, en rentrant de Vancouver. Et je les ai vus. Du coup, on les a vus dans le cockpit là. Et vraiment, elles étaient vraiment incroyables. On serait cru dans Fantasia 2000, en fait. C'était vraiment... on a vraiment eu beaucoup de chance. On a eu de magnifiques balais d'aurore boréale. Enfin, il n'y a pas d'autre terme, c'est des balais. Donc, vraiment incroyable, ouais. L'Amérique latine, c'est vraiment un endroit, un continent que j'aime vraiment beaucoup. Et particulièrement l'Argentine. L'ambiance qu'il y a là-bas, c'est l'Amérique latine, mais version avec... on sent vraiment l'influence européenne qui remonte. Mais l'ambiance qu'il y a là-bas, le vin, on ne va pas se mentir. Et puis aussi le lien avec les chevaux, aussi, c'est un pays de cheval. Et puis je ne sais pas, je m'y sens bien en fait. niveau dépaysement, vraiment, bah, souvent c'est le Japon qui revient, puisque c'est vrai que niveau culture, c'est vraiment rien à voir avec nous, la culture méditerranéenne, hein, dans le sens où bah, eux, un non, enfin, ils savent pas dire non dans leur culture. Moi qui suis habituée à l'Amérique latine où tout est négociable, bah, au Japon, non, non, on négocie pas en fait, c'est comme ça et les règles sont comme ça. Celui qui m'a vraiment perturbée, je dirais, c'est Madagascar. Niveau pauvreté, tout le monde dit l'Afrique, mais Madagascar, c'est vraiment, c'est là-bas où ça m'a vraiment fait. Enfin, j'en ai eu les larmes aux yeux où j'ai dit, mais c'est pas possible. Enfin, quand vous voyez un policier qui fait la circulation pieds nus parce que bah ils ont pas les moyens de s'acheter des chaussures ou quoi. Enfin, c'est là-bas, c'est terrible. C'est un très beau pays, mais la pauvreté, c'est terrible.
Horizon Partagé, votre podcast de découverte. Retrouvez-nous sur vos radios, vos réseaux sociaux et les plateformes de streaming.
Le Sri Lanka, je pense vraiment que c'est un pays qui mérite d'être découvert. Il y a plein de choses à faire. Les gens sont incroyablement gentils là-bas. C'est vraiment hallucinant la gentillesse qui peut s'en dégager. Après, moi, pour moi, des pays qui mériteraient, mais malheureusement, les contacts géopolitiques font que on peut pas. C'est l'Afrique, mine de rien, qui, pareil, vous allez au Congo. Enfin, j'ai malheureusement pas pu y aller, mais il y a vous avez des réserves de gorilles, il y a des paysages qui sont magnifiques à voir en Afrique, mais malheureusement, bon, c'est compliqué là-bas. San Francisco, Golden Gate. Donc, il y avait des dauphins et des phoques, et j'ai eu la chance de voir un baleineau. Donc ça a vraiment été la surprise où c'était pas bah, c'est des choses qui arrivent comme ça et donc ouais non ça a vraiment été la surprise où je me suis dit mais non c'est pas possible, c'est pas ça, et si c'était bel et bien une baleine. Argentine ou Brésil, moi bah, c'est là-bas que j'aime vraiment là-bas. J'y avais pensé pendant un temps à acheter un appartement là-bas et alors là, avec les rythmes, me reprendre des j'ai vécu en province, là je suis remontée en région parisienne entre autres parce que j'en avais marre des allers-retours et du temps perdu, entre guillemets. Mais j'avais fortement pensé à acheter, oui, en Argentine pour plus tard. Et voilà, quoi. Après, c'est toujours pareil. J'ai déjà vécu à l'étranger. Et quand entre aller dans le pays en vacances et vivre au quotidien et voir comment ça se passe, c'est totalement différent. Et des fois, on a des belles et des mauvaises surprises aussi. J'ai vécu en Angleterre et en Espagne. Par exemple, l'Espagne, dans mon cas, ça a été, c'était une erreur de notre part aussi, mais on s'imagine toujours que l'Espagne, c'est olé olé, que tout va bien se passer et que voilà. Faut prendre en compte aussi leur rythme. Quand vous êtes habitué à un certain système administratif, que vous arrivez dans un pays et qu'ils vous disent, ah, mais nous, ça se passe pas comme ça, et qu'à 11h30, n'importe, ils vous ferment le volet devant le nez, vous dites, mais vous fermez à midi. Ah oui, mais là, on ferme à 11h30, c'est voilà. Se faire sa place, et ça reste un pays européen, donc c'est plus facile, je dirais. Vous découvrez aussi la vraie mentalité dans le pays, donc vous dites, ah ouais, je les pensais pas comme ça, je pensais qu'ils étaient plus cool que ça, ou n'importe. Bon, je veux pas casser du sucre sur les Espagnols, hein, mais voilà, c'est, il y a des choses, vous découvrez d'autres mentalités aussi, où vous dites, ah, je l'avais pas vu venir celle-là, j'y avais pas pensé, donc. Mais bon, ça fait de l'expérience aussi. Ça nous permet après de nous adapter. C'est intéressant. Hein. Si on cherche vraiment, chaque pays a ses points positifs, on va dire. Et c'est vraiment propre à chacun, en fait. Donc, y en a qui vont adorer l'Inde. Moi, j'ai plus de mal par rapport à la culture. Ou voilà, il y en a, c'est des fans du Japon. Moi, je cours pas après le Japon. Mais je pense que c'est une méconnaissance de ma part de la culture japonaise. Quand on cherche, en fait, il y a toujours quelque chose à découvrir ou quelque chose à apprendre. Donc, c'est vrai qu'en soi, je me dis toujours, qui est-ce que je vais rencontrer? Qu'est-ce que je vais apprendre? Apprendre aussi à relativiser par rapport à certaines choses. On se dit, ouais, moi, j'étais en train de faire un caprice, mais voilà, de me dire, oh là là, je vais pas pouvoir m'acheter ma robe Zara à 80 euros ce mois-ci. Et puis, là, vous allez à Madagascar ou... même en Inde, hein, et vous voyez des gens qui ont du mal à se nourrir et qui pour autant seront les premiers à vous offrir un thé ou un petit gâteau, et vous vous dites c'est juste un petit gâteau, mais pour eux c'est déjà énorme. Et donc on relativise pas mal par rapport à ça. Ça m'a permis aussi de rencontrer des gens, enfin incroyables, qui ont des histoires incroyables, qui vraiment voyagent de partout dans le monde, qui ont vécu des choses juste ouf, hein, il n'y a pas d'autre terme. Là, par exemple, alors, j'ai pas pu assister au défilé, mais j'étais en Chine, donc j'ai pu voir toutes les décorations pour le Nouvel An chinois, par exemple. Donc ça c'est top. J'ai eu la chance d'assister aussi au Carnaval de Rio. C'était un rêve, ça. Donc j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Et après, bah ça dépend. Là, j'aimerais bien pour octobre, c'est voir la fête des morts au Mexique. Donc voilà, c'est vraiment. Il y a des fois où je me dis, bah voilà, tel mois, je vais essayer de demander ça parce que je sais que c'est telle fête dans ce pays, donc j'aimerais bien pouvoir y assister et le vivre vraiment en réel. D'un point de vue aussi culinaire, j'ai pu énormément, enfin découvrir énormément de plats typiques. Vous allez dans les marchés, vous voyez comment ça se négocie. Enfin, c'est vraiment l'ouverture sur le monde. Une de mes cuisines préférées, c'est la cuisine indienne. C'est bah déjà parce que bah, je suis végétarienne, donc du coup ça aide parce qu'ils ont beaucoup de plats végétariens là-bas et de par la richesse des épices. Moi, j'ai découvert je ne sais combien d'épices à force. Après, moi, j'adore quand je vais dans un pays, c'est aller faire les marchés locaux pour voir un petit peu des produits typiques des pays. Donc, vraiment, pour moi, la cuisine indienne fait partie du top 3 de mes cuisines préférées. Cuisine thaïlandaise aussi est excellente. Il y a des pays comme le Pérou où on en parle très peu, mais en fait, il faut savoir que c'est le pays dans le monde où il y a le plus de restaurants étoilés, en fait. Et il y a plein de choses à goûter là-bas. Ils font beaucoup de plats à base de poissons aussi. Enfin, il y a plein de choses. Après, niveau surprise, bah, je dirais la Chine. Quand vous vous baladez dans les marchés, alors il n'y a pas que là-bas, mais voilà, vous pouvez avoir des scorpions, des asticots, des vers. Vous le retrouvez bah, en Thaïlande aussi, voilà, dans les pays d'Asie. Je pense que si vraiment on veut être surpris niveau cuisine, il y a là-bas. L'Afrique du Sud aussi, vous avez des animaux qu'on n'a pas l'habitude de manger. Quand on vous dit que là, on vous sert du zébu ou de l'antilope ou du phacochère, à nous, on a grandi avec le Roi Lion, donc on se dit, bah, je suis en train de manger Pumba, là, c'est pas possible. Le Pérou, où, bah, vous allez dans un restaurant, vous voyez qu'en fait, ils servent du cochon d'Inde. Vous dites, ben non, pas le cochon d'Inde, genre, on parle vraiment de celui-là. Enfin, voilà, donc. C'est ouais, il y a des fois, on se dit waouh, enfin, nous, ça nous choque, entre guillemets, mais bah, comme nous, au même titre, on va dire une bonne côte de bœuf pour un barbecue, vous allez en Inde, ils vont vous dire, mais comment ça? Enfin, c'est pas possible de manger de la vache. Enfin. La Chine, j'ai du mal, il y a beaucoup, beaucoup de plats à base de viande. Et très sincèrement, déjà de base, j'avais pas confiance au niveau de ce qu'il y avait. Si on me disait que c'était du porc, c'était pas du chien, du chat. Alors, c'est un peu cliché de ma part, donc voilà. J'ai plus de mal à manger là-bas parce que voilà, beaucoup de plats à base de viande. Mais il y a de très, très bons plats chinois en soi. Hein. C'est une très, très belle cuisine qui est très riche au niveau saveur et au niveau diversité aussi. Hein. Vraiment, c'est très intéressant de se pencher sur la cuisine chinoise. On a une très très belle gastronomie. On a souvent les débats avec mon mari, puisque lui c'est un ancien cuisinier, donc on a les débats de la France, etc. Où il disait, mais enfin, bon, moi par exemple, j'adore la culture, enfin la cuisine italienne aussi, je me dis, mais regarde et tout. Mais c'est vrai qu'après, quand on en débat et qu'on prend du recul, bah, pareil, une fois de plus, je ne veux absolument pas dénigrer la cuisine italienne, ce que j'adore, mais beaucoup de plats à base de pâtes. Et c'est vrai que quand on regarde, nous, la gastronomie française d'un point de vue diversité, en toute objectivité, je pense qu'on est difficilement égalable enfin, d'une région à une autre. On a des plats complètement différents et pas forcément avec les mêmes ingrédients. Vous allez en Bretagne, ce sera des crêpes, du Queen Amann, etc. Vous allez en Haute-Savoie, ce sera la tartiflette. Voilà, donc niveau diversité, je pense très honnêtement que non, on est devant. On râle beaucoup, mais on a quand même pas mal de chances comparé à d'autres pays. Ne serait-ce que de naître français, on se rend compte que notre passeport, il ouvre aussi pas mal de frontières et on est bien protégé aussi, quoi qu'il en soit. Il y a des passagers quand on a le temps, en fait, on peut vraiment, après, il faut le prendre aussi quand on peut, mais avec qui on peut vraiment discuter. Et par exemple, bah, je ne sais pas, petite bêtise, mais vous allez vous faire un avis sur un chef d'État, par exemple, vous allez en discuter avec quelqu'un du pays qui va lui vous apporter une autre vision et sa vision du quotidien par rapport à ça. Et vous dire, ah oui, d'accord, ou bah, moi, je pensais que ça, c'était OK dans votre pays. Il va vous dire, ah non, non, pas du tout, c'est un affront ce que vous allez dire. Et il y a des gens, moi, ça m'est arrivé de discuter avec des gens après d'être invité à des repas en escale, enfin, avec eux, ils vous font découvrir la nourriture traditionnelle. Enfin, c'est génial. En Inde, je me suis retrouvée à discuter et en fait, après, à me retrouver invitée à un mariage indien. Mais les vrais mariages indiens, genre vraiment tout ça avec toute la fête qu'il y a autour. Bon, il n'y avait pas les éléphants, mais c'était voilà, toutes les couleurs, toutes. Donc non, non, c'est. On arrive à des moments à, voilà, à créer des liens avec eux. Et puis, moi, j'ai des collègues, des passagers, au final, c'est devenu des amis. Il y en a pour qui c'est devenu leur mari ou leur femme. C'est. Ouais, y a des liens qui se créent. C'est ça qui est chouette. Sur certaines destinations, c'est assez rigolo, entre guillemets, parce que bah, vous allez voir les clients qui applaudissent à l'atterrissage. Et nous, en France, enfin en Europe, on se dit oui, bah, ça va, mais il y a des pays où c'est vraiment où on voit les gens prier avant le décollage, parce que bah, c'est culturel, ils sont très croyants, donc ils ont besoin de se rassurer. Faut savoir qu'au niveau des compagnies aériennes, toutes maintenant, c'est vraiment à l'ordre du jour par rapport à l'environnement. Et ils font des avions qui sont conçus pour consommer moins de kérosène. Donc, il y a un aspect économique aussi, mais c'est l'aspect aussi polluant. Donc, ils consomment moins sur de la longue distance. À bord, on fait aussi du tri. On fait du recyclage. Donc, tout ce qui est plastique. Enfin, voilà, on a des choses, on peut recycler les bouteilles plastiques, etc. On sensibilise, pardon, les passagers, mais on le voit aussi, hein, les passagers font aussi beaucoup plus attention. Après, moi, je suis un peu dure là-dessus, mais ça me fait toujours rigoler quand on pointe du doigt les avions et qu'on sait que au niveau pollution, bah, c'est notamment les réseaux sociaux aussi, enfin tout ce qui est Internet, Google, etc. Et que bah, c'est même pseudo-influenceurs ou lanceurs d'alerte se servent de ces réseaux-là pour lancer des alertes, et je trouve que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, on pointe du doigt l'avion, mais je pense qu'il y a d'autres choses à étudier avant par rapport à ça. Je ne dis pas qu'on pollue pas, mais on a besoin aussi, je pense, de ce mode de transport pour bah, amener certains produits. Ou voilà, c'est. Donc, je pense qu'il faudrait réétudier un peu cette question d'écologie par rapport à ça. Après, forcément, je vais défendre mon milieu. C'est vrai que des fois, c'est rigolo quand on fait les vols de nuit de voir un peu à quel point toute la lumière qu'il y a. Des fois, on vous dit, bah là, c'est telle ville ou tel pays où vous voyez toute la concentration de lumière, ou d'autres, il y en a moins. On va constater des fois, par exemple, si des chaînes de montagne, on va dire, bah tu vois, là, il y a très peu de neige alors que on est au mois de février et puis bah là, on est en train de survoler n'importe les Alpes et regarde, il n'y a pas tant de neige que ça. Ça, on peut le voir, par exemple. Sur les chaînes de montagne, on peut le constater. Après, au niveau du tout ce qui est pôle Nord ou enfin, tout ce qui est Groenland ou des choses comme ça, personnellement, je n'ai pas ce recul. Et comme je te dis, ce n'est pas forcément la même chose. Et on n'a pas forcément le temps de regarder au niveau du hublot tout le temps. On travaille, mine de rien, des fois. Quand il y a eu le Covid et enfin, c'était sur volontariat, on pouvait faire les rapatriements sanitaires si on le voulait. Qui m'a marqué, ça a été un Bangkok où en fait on est allé, bah, du coup ils avaient affrété un avion exprès pour les récupérer, bah, les ressortissants français. Et où bah, quand les clients sont montés et qu'on a fermé les portes, en fait les clients ont applaudi et nous ont remercié en fait d'être venus les chercher. Et c'est là où on se dit, mais bah, ce qui me paraissait normal, entre guillemets, ou faisait partie de mon métier, bah, en fait je m'aperçois que bah, j'ai fait sans m'en rendre compte. On a fait plus que ça puisque bah on a permis à des familles. J'ai une dame qui m'a pris dans ses bras en pleurant et qui m'a dit mais merci d'être venue. Et on se dit bon on n'était pas en temps de guerre mais bon c'était une maladie qu'on connaissait pas trop sur l'instant. Et en fait ils nous ont dit merci parce que bah grâce à vous au moins je peux rejoindre ma famille. Je peux voilà et ça m'a vraiment marqué parce que bah sur l'instant on s'y attend pas et on ne s'en rend pas compte. C'est donc voilà quoi. C'est puis même c'est l'émerveillement de certaines personnes de voir. De les voir quand ils montent dans l'avion, enfin, c'est les petits plus qu'on peut faire à bord, les petites attentions qui vont faire que bah, ça va embellir en fait le voyage de ces personnes-là et où un geste qui nous paraît nous anodin, bah, au final, ce sera beaucoup pour d'autres personnes en fait. C'est l'aspect humain que j'aime vraiment.